Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
Vendredi 27 août. Bonne journée. Bienvenue au 98,5. Ce matin, fin de la canicule. Une autre belle journée. Par contre, se dessine à l'horizon avec une alternance de soleil et de nuages. Température plus confortable, autour de 25 degrés. Et juste la référence avec l'humidex, là. Hier, on était dans le 40. Et là, on parle pour aujourd'hui de 27. En soirée, notamment pour le tour de l'île, partiellement nuageux, autour de 18 degrés. Samedi, c'est couvert et la pluie commence en après-midi, fin d'après-midi. Et ça va se poursuivre comme ça toute la soirée. Au total, samedi, on prévoit 15 mm de pluie, avec encore là un maximum de 25 dans la nuit des averses. Et ça continue dimanche. Au total, deux journées de pluie là pour le Grand Montréal, 25 mm de pluie. Ayons une pensée pour les agriculteurs, pour les producteurs maraîchers. Et les terres ont besoin d'eau, les terrains ont soif. Et c'est essentiel parce que je sais que pour plusieurs d'entre eux, c'est extrêmement difficile ces temps-ci. Alors, c'est quand même une bonne nouvelle. Belle journée pour terminer la semaine. Puis après ça, on va passer en mode un peu plus gris et en mode de pluie. Évidemment, ce matin, le double attentat à l'aéroport de Kaboul qui retient l'attention. 13 militaires américains ont été tués et les bilans varient, je dirais, selon les sources concernant les civils. Certains parlent de 60, 70, 90, 120 Afghans qui auraient été tués. Et on rappelle donc qu'à deux endroits, ce sont des attaques suicides, deux individus qui se sont approchés à quelques mètres des postes de contrôle des soldats américains pour se faire exploser. Et l'attentat, le double attentat, a été revendiqué par l'État islamique qui, je cite, dans un message qui a été authentifié, dit que la cible, dans le fond, c'est un rassemblement de traducteurs et de collaborateurs de l'armée américaine. Ce qui est troublant, et je vous le dis ce matin, on va en parler avec Fabrice de Pierrebourg et également Charles-Philippe David, c'est que, selon certaines informations, il semble que la vidéo d'un des deux martyrs, entre guillemets, a été interceptée avant l'attaque. Et dans ces images, on indique clairement l'intention. Et les différents services de renseignement savaient que des attentats étaient en préparation. Difficile de dire où, quand précisément, mais quand même, les autorités américaines, britanniques, parlaient de menaces crédibles d'attentats suicides autour du complexe. Mettez-vous dans cette perspective où vous avez cet aéroport, le pays contrôlé par les talibans, l'État islamique est présent et les étrangers sont au même endroit, c'est-à-dire l'aéroport de Kaboul. Donc, cette menace crédible était connue. Et donc, cette vidéo a circulé et en apprenant la situation, je cite, l'ambassadeur de France à Kaboul, M. David Martineau, avait interdit jeudi aux forces spéciales françaises ainsi qu'aux policiers du RAID présents à Kaboul de se rendre à l'aéroport. Donc, la France avait jugé bon d'appliquer des mesures d'extrême prudence. Hier, le président Biden, en fin d'après-midi, a fait son point de presse avec les phrases habituelles, c'est-à-dire penser pour les personnes décédées, une promesse de répondre à cette attaque avec force, au moment choisi par les États-Unis, tout en garantissant que les opérations de sauvetage continueraient. Je rappelle que la date limite pour quitter l'Afghanistan, c'est le 31 août, et que probablement, ça devrait se terminer aujourd'hui. Quant au Canada, le ministre Marc Garneau, lui, puis là, il faut, comme on dit, décoder les phrases, il promet de sortir tous les Canadiens et les Afghans vulnérables qui sont toujours là-bas. Et je rappelle ce qu'on appelle des fixeurs, des traducteurs, des gens qui ont aidé les Forces armées canadiennes, qui ont aidé les journalistes canadiens. Plusieurs sont toujours coincés et sont pas capables d'avoir des informations. M. Garneau a une machine lourde. Et des gens qui sont en détresse en Afghanistan, ils sont très nombreux. Selon ce qui est évalué par le gouvernement fédéral, on parle facilement de 20 000 Afghans qui seraient à ramener au pays. Alors, c'est sûr, ça se fera pas d'un coup, là. Et combien d'autres pourraient réussir à quitter par différents moyens? On a quoi? Évacué à peu près 3 500, 4 000 personnes depuis quelque temps. Mais il y a toujours beaucoup de Canadiens ou d'Afghans en difficulté qui sont malheureusement coincés dans ce pays. Bon, le passeport vaccinal, Journal de Montréal, La Presse ce matin, nous explique qu'il y a quelqu'un qui a réussi à pirater les passeports de personnalités connues, ça veut dire des gens qui sont faciles à identifier. Alors, ce matin, par exemple, on sait que François Legault, Christian Dubé, Éric Kerr, Dominique Anglade, Gabriel Nadeau-Dubois, Valérie Plante, puis la liste est plus longue que ça, ont fait l'objet de ce pirateur. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est assez simple, finalement, parce que, surtout avec des gens connus, là. Alors, François Legault, vous avez son nom. Avoir sa date de naissance, on s'entend que c'est pas trop difficile. Monsieur Legault a même partagé son passeport, l'image, sur les réseaux sociaux. On sait à quel endroit il s'est fait vacciner. Puis, avec un chiffrier, tu entres les deux numéros manquants de ton numéro d'assurance maladie. Et semble-t-il que sur le site, on peut s'essayer à répétition sans que ça bloque. Et donc, tu vas chercher ce passeport. Là, on parle d'informations faciles à trouver. Mais en même temps, ça donne pas des informations là, comme le numéro d'assurance sociale. C'est assez limité ce que le passeport te donne. Ça explique que tu es double vacciné, puis donc quelques informations sur le vaccin que tu as reçu. Alors, pourquoi des gens feraient ça? D'abord, rappelons que c'est illégal. Deuxièmement, des gens non vaccinés pourraient se créer un passeport vaccinal. Rappelons aussi que ça prend une deuxième preuve d'identité pour valider le vaccin. Ou le passeport, c'est-à-dire, avec photo. Ce que ça amène comme conclusion, c'est que c'est facile, que malheureusement, on n'a pas mis en place des mesures plus strictes, je vais parler avec Steve Waterhouse tantôt, et on aurait dû le faire. C'est pas des informations, je dirais, pointues, qui permettent un vol d'identité, mais c'est achalant. Puis on n'aime pas ça. Puis le problème, c'est que le ministre Kahn nous dit « N'ayez pas peur, tout est correct, puis ça arrivera pas. » Ben oui, ça arrive. Puis ça a l'air assez facile, puis ça prend pas nécessairement des méga connaissances là en piratage. Alors, dans La Presse et le Journal de Montréal, vous allez retrouver ça ce matin. Ça, c'est le volet numéro un concernant la vaccination. Deuxièmement, le volet obligatoire, commission parlementaire. Le ministre Dubé a dit hier, c'est difficile à prendre comme décision, mais on n'a pas le choix. Il faut protéger les plus vulnérables, des gens qui sont malades et qui se retrouvent au quotidien avec des employés du réseau de la santé. Conscient en même temps que d'imposer la vaccination, ça peut amener rupture de service, ça peut amener des gens à quitter le réseau. Je rappelle que c'est public-privé, là. Pas juste le réseau public de santé. Ça comprend l'ensemble des cliniques puis des services. Donc, il y a un paquet de monde, même si le pourcentage est faible, qui ne sont pas vaccinés adéquatement. La grande question, que vont faire les syndicats? La FIC nous a donné le ton hier, en disant, c'est risqué, c'est dangereux, puis c'est des espèces de demi-phrases, là. Puis en même temps, explique que ça va continuer de, je dirais, ça va créer une espèce de sentiment encore tendu entre l'employeur et certains syndiqués. Et Nancy Bédard donnait des exemples. Tu sais, une espèce de message confus. Elle dit qu'il y a une directive au mois d'août du réseau de la santé dans laquelle on annonce la fin des zones chaudes et tièdes. On permet la mobilité du personnel, que des patients à nouveau partagent la même chambre. Alors, tu dis d'un côté, t'es moins sévère, Si tu exposes les gens, puis en même temps que tu veux que tout le monde soit vacciné. On verra d'autres syndicats. On sait aussi que le passeport vaccinal ne sera pas appliqué dans les universités et dans les cégeps. Pourquoi? Trop compliqué. Le Devoir nous dit ce matin que de prendre des dispositions puis des postes de contrôle puis de vérifier tous ces étudiants, là, puis on prenait l'Université de Montréal, McGill, bon, où les gens entrent puis sortent puis de faire une espèce de contrôle permanent, c'est trop compliqué. Et finalement, ça n'a pas de bon sens. Également, on dit le taux de vaccination, 86 % des étudiants universitaires qui ont eu leur deuxième dose ou qui ont un rendez-vous pour l'obtenir. Et il y a déjà le passeport qui est demandé pour certaines activités. Donc, ce sera un casse-tête, dit-on, pour les différents établissements. Alors, c'est pas une bonne idée de procéder de cette façon-là. Peut-être juste pour compléter sur la vaccination, puis je pense que c'est important de le faire. Là. On sait que les opposants sont bruyants, mais je rappelle que la vaccination est un succès au Québec, qu'on atteint pas loin de 80 %, là, on est à 77, 78 peut-être, là, de gens qui sont correctement vaccinés et qui ont donc ce passeport vaccinal et qui vont pouvoir participer à leurs activités non essentielles, OK, mais en même temps essentielles pour la qualité de vie. C'est-à-dire faire du sport, c'est-à-dire aller avec des amis au restaurant, pour avoir une certaine vie sociale. Tout ça pour éviter qu'on reparte, si jamais ça remonte, de façon soutenue, vers un autre confinement. Puis je voyais ce matin, je pense que c'est dans la presse, là, ils font une espèce de bilan qui montre l'efficacité de la vaccination, le fait qu'on a des cas, mais qu'en même temps, c'est pas dramatique pour le réseau de la santé, puis on espère que ça va demeurer comme ça pour l'automne, et qu'il n'y aura pas cette surcharge, parce que le réseau en arrache déjà. Et je pourrais vous donner ce matin l'exemple de l'Oregon, où on a annoncé des mesures où on impose le masque même pour les activités extérieures. Le nombre de cas de gens hospitalisés. Aux États-Unis, là, je prends l'État comme l'Oregon, là, c'est 60-quelques % des gens qui sont vaccinés. Nettement moins que le Québec. Puis là, vous voyez avec cette nouvelle vague, ça repart vers le haut. Et pas juste les cas, là. Donc, des gens qui sont malades, qui prennent la place de d'autres malades. Puis rappelons-nous la discussion qu'on avait perpétuellement sur les non-COVID qui sont pénalisés. On ne le dit jamais assez, là. Un non-vacciné COVID prend la place d'un patient qui devrait être traité. Et un patient qui a besoin de soins et qu'on déleste ou qu'on repousse dans le temps. Et c'est ça qui est insultant. Puis c'est ça qui enrage pas mal de monde et beaucoup, beaucoup de membres du personnel du réseau de la santé. Alors voilà pour ce qui est de ce volet vaccination. Maintenant, je vais vous parler de l'hôpital Saint-Eustache. On a eu des infos, puis on les a validées. Ça s'est passé le week-end dernier. Puis on comprend là que Saint-Eustache, comme tous les hôpitaux, là, manque de personnel, temps supplémentaire obligatoire. Le syndicat nous dit que sur le plancher dimanche, il manquait au moins 6 infirmières et infirmières auxiliaires sur le quart de jour. Tu te ramasses avec 15 patients qui sont dans la salle d'attente. Il y en a qui sont là depuis 15 heures. Et là, soudainement, t'entends à l'intercom un message. Et le message dit « Aucun patient de la salle d'attente ne sera vu par les médecins en raison du taux d'occupation anormalement élevé et du manque de personnel. » Qu'est-ce que tu penses que les gens ont fait? Tu ne seras pas vu, c'est ce que le message te dit. Ben, les gens sont partis sauf un. 14 personnes se sont retrouvées ailleurs, sont allées vers d'autres hôpitaux pour obtenir des soins. Le 6 des Laurentides nous dit que le message aurait dû être livré autrement et que ce qu'on voulait dire, c'était que les usagers de l'urgence, ce serait difficile de voir le médecin. Autrement dit, on a dit ça tout croche. Mais quand c'est rendu dans un hôpital, t'expliques aux gens que le médecin ne verra pas dans la salle d'urgence, on a quand même un problème. Puis là, tu sais, c'est sûr, on est très là, zoom sur la COVID. Mais ces problèmes d'organisation sont nombreux. À tous les jours, j'ai des infirmières, j'ai du personnel, des gens qui m'écrivent, qui me parlent de leur situation. Il y a une infirmière qui m'écrivait cette semaine. Elle dit, demandez-vous pourquoi les gens refusent les temps pleins. Parce que tu ne veux pas te ramasser comme une de mes amies qui faisait du 16 heures par jour, du temps supplémentaire obligatoire à répétition, puis qui est tombée malade et qui, malheureusement, est plus capable de travailler. Quelques autres nouvelles en terminant. Il y a Ruth-Hélène Brosseau, qui peut-être, je dis peut-être parce qu'on ne le sait pas, il y aurait un point de presse aujourd'hui, mais qui pourrait faire un retour. C'est l'ancienne députée de Masquinongé pour le NPD. Ça avait été une candidate spectaculaire au début, emportée avec la vague, si on veut, de Jack Layton. Elle se trouvait à Las Vegas, puis tu sais, c'était un peu un phénomène. Puis après ça, elle a pris vraiment, je dirais, beaucoup d'assurance, puis elle est devenue un personnage clé du NPD au Québec. Et elle avait été battue lors de la dernière élection, en 2019, et par un candidat du Bloc québécois. Puis depuis ce temps-là, lit-on dans le Nouvelliste, elle travaille avec son conjoint sur une ferme, puis elle est encore très impliquée. Alors, est-ce qu'elle veut revenir vraiment en politique? Si oui, il me semble que c'est un peu à dernière minute. On est en pleine campagne électorale. Donc, ce sera à suivre. Mais elle va donc revenir quand même faire le point aujourd'hui et nous dire ce qu'elle a l'intention de faire.
L'essentiel de Paul Arcand.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
La rentrée scolaire au Québec se déroule sur plusieurs jours, selon les centres de services. Montréal, on a vu, c'est commencé. Et c'est encore une fois cette année, sous le signe du virus, que les parents doivent préparer cette rentrée. Puis j'ai tellement de questions de parents, là, puis même, je dirais, d'ados qui m'écrivent. On a pensé téléphoner à Dr Caroline Quash, qui est microbiologiste, qui est à Sainte-Justine, pour essayer un peu de démêler les choses puis donner l'info correctement. Dr Quash, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
Je vais vous poser une question. C'est une mère qui m'envoie une question de son fils qui a 13 ans et qui veut pas se faire vacciner. Et je vous pose la question, puis ça va donner le ton sur, un peu pour les autres. Il dit, j'ai fait mes recherches et chez les jeunes, on peut avoir des problèmes cardiaques suite au vaccin, mais personne n'en parle. J'ai pas le choix si je veux continuer à me faire vacciner, mais personne ne peut pas me garantir que je vais rester en bonne santé après avoir reçu le vaccin. C'est ça sa question.
Oui, ben en fait, on en parle. Les myocardites, on en a parlé de long et en long et en large. Je pense qu'il faut quand même mettre les choses en perspective. Ce qu'on sait... Là, je sais pas, je m'entends en double. Hein?
Ah.
Mais juste pour vous dire, je vais continuer,
ouais,
je vais
allez-y.
Ignorer ma petite voix. Mais donc, ce qu'on sait, c'est que chez les jeunes hommes, en particulier de moins de 30 ans, on a vu un signal où il y a une inflammation du cœur qui survient autour de 3-4 jours après la deuxième dose de vaccin COVID. Par contre, cette inflammation-là, elle est bénigne. C'est-à-dire que avec du repos, ça s'en va. C'est sûr qu'on la cherche et c'est pour ça qu'on en trouve probablement davantage. Mais on parle d'un risque de comme 1 sur 200 000 doses à 1 sur 500 000 doses. Donc, on voit que c'est quand même rarissime et que par ailleurs, l'infection à la COVID elle-même peut être associée avec une complication d'inflammation multisystémique qui est aussi associée avec une inflammation cardiaque bien plus importante, celle-là. Donc, tu sais, quand on regarde ça, là, on en parle du risque de myocardite. En fait, les infirmières, quand elles vaccinent, nous disent toujours si jamais après la vaccination, vous ressentez un serrement à la poitrine, des palpitations, douleurs au niveau du sternum, ben on consulte, puis on fait des prises de sang, puis à ce moment-là, on voit si c'est ça ou pas. Mais malgré tout, le risque de complications est quand même presque inexistant là, sur cette myocardite-là.
OK. L'autre question qui revient beaucoup, on parle de gens pour qui le vaccin n'est pas indiqué. dans quelles conditions, dans quel contexte le vaccin n'est pas indiqué pour une personne?
Écoutez, c'est rarissime. La seule contre-indication claire pour les vaccins à ARN messager, c'est une anaphylaxie, soit une première dose de ce vaccin-là, ou une allergie confirmée au PEG, qui est une composante qui est dans le vaccin pour stabiliser l'espèce de particule de lipides là, qui protège l'ARN messager. Mais autrement, qu'en termes de vraies contre-indications, il y en a pas. C'est possible que dans certaines conditions, un patient qui réagisse très mal à une première dose, par exemple, ne se voit pas offerte la deuxième. Par exemple, si on fait une myocardite après une première dose, après consultation, c'est tout à fait possible qu'on dise, écoutez, on va laisser passer la deuxième dose. Mais autrement, c'est vraiment en termes de discussion avec un spécialiste, là, c'est rarissime les contre-indications réelles de vaccination.
OK, donc femme enceinte, quelqu'un qui a le cancer, c'est pas une contre-indication.
Non, pas du tout. Puis en fait, la femme enceinte, il y a une recommandation forte à la vaccination puisque le fœtus peut avoir, en fait, la femme enceinte peut avoir des complications de l'infection à la COVID. Et puis, pour ce qui est des immunocompromis, on est même en train de regarder là, s'ils n'auraient pas besoin d'une troisième dose pour les protéger encore davantage. Okay. Je m'entends encore en double. Hein?
Oui, ben on va essayer de corriger le problème. Je suis vraiment désolé. Là, c'est hors de mon contrôle.
Ouais.
Mais... là, je vous pose des questions qui touchent les plus jeunes, les tout petits qui sont pas encore vaccinés. Puis là, la question, on vous l'a posée souvent, là, mon enfant mouche, mon enfant tousse un peu, est-ce que je l'envoie à l'école ou pas?
Ouais, ben s'il est très malade, non. Là, comme on fait avec n'importe quoi, là, il fait de la grosse fièvre, on le laisse à la maison puis on le fait tester. C'est pour ça que je pense qu'on essaie de déployer des tests rapides un peu partout dans les garderies, les écoles, pour être capable de dire bon, tu sais, t'as le nez qui coule un peu, on fait un test rapide, il est négatif, on te laisse à l'école pour la journée. C'est sûr que ça se peut que ce soit une COVID qui commence avec une charge virale très faible, mais à ce moment-là, il y a moins de risques de transmission. Mais c'est aussi possible que ça soit un autre virus. Donc, il n'y a pas de réponse facile, mais ce qu'on essaie de faire, c'est de donner des outils pour être capable de trier un peu là, ces rhumes-là qui peuvent être dus à tous les autres virus qui circulent par ailleurs présentement de façon assez allègre, je vous dirais.
Question d'un parent. Les tests rapides qui seraient disponibles donc dans les écoles quand, par exemple, il y a un cas de confirmé, ça fonctionne comment un test rapide?
En fait, ce ne sera pas quand un cas est confirmé. Quand un cas est confirmé et qu'on doit faire un dépistage de la classe, on est plutôt en train d'essayer de voir si les gargarismes salivaires, donc tu prends une gorgée d'eau, tu te la brasses dans la bouche pendant une minute, puis tu le recraches. Et ça, c'est analysé dans les laboratoires là, par PCR, comme on fait présentement avec les tests et les écouvillonnages dans le nez. Là. Ça serait une façon de faire où on pourrait laisser les kits aux parents puis ils pourraient les déposer dans un laboratoire où la santé publique débarque, fait des gargarismes à tout le monde, puis repart. Donc ça, dépendamment des régions, les gens s'organisent différemment. Le test rapide, c'est un écouvillon juste dans la narine, pas loin, là, juste vraiment dans la narine en avant, comme quand on met de l'onguent à notre enfant parce que, je sais pas, là, il y a le nez sec ou un truc du genre. Et ensuite, qu'on met dans un petit tube avec du liquide et qu'on dépose sur un test qui ressemble à un test de grossesse finalement. Et là, il y a des lignes qui apparaissent qui nous disent si le test est bien fait, c'est-à-dire qu'il y a eu assez de liquide et s'il y a la présence du virus de la COVID. Et c'est un test qui donne une réponse en 15 minutes qui peut être fait par une personne formée qui n'a pas nécessairement besoin d'être une personne dans le domaine de la santé. Et ce qui a été utilisé entre autres dans les entreprises là au printemps pour essayer de limiter les éclosions parce qu'on était capable de le répéter souvent et sur place.
Il y a beaucoup de parents qui me parlent et qui font des espèces de comparatifs avec la situation aux États-Unis où on a vu une augmentation du nombre de cas. J'entendais hier un médecin américain qui disait que même au niveau des hospitalisations, il y en avait plus chez les enfants. Il y a des parents qui se disent, même si l'enfant, par exemple, a des symptômes légers, est-ce que la COVID longue peut s'appliquer? Autrement dit, est-ce qu'il peut traîner ça longtemps?
Mais jusqu'à maintenant, quand on regarde la clinique de COVID longue qui a été mise en place à Sainte-Justine, elle n'est pas hyper occupée. On a l'impression que la COVID longue, c'est pas quelque chose qui semble si présent chez le jeune enfant par rapport aux plus vieux. Tu sais, les ados, il y en a peut-être un peu plus, là, mais chez le jeune enfant, ça n'a pas l'air d'être aussi présent. Donc, c'est quelques pourcentages, mais pas tant que ça. La clinique est là, elle voit les patients et je pense qu'on a besoin d'avoir plus de détails, mais c'est pas quelque chose qui semble très fréquent.
L'autre question, on va développer, en fait, faire approuver des vaccins pour les moins de 12 ans. Il y a des parents qui vous écoutent ce matin qui ont un bébé d'un an, un bébé d'un an et demi. Pourquoi faire vacciner un enfant si jeune?
Pour le protéger contre la COVID, pour qu'on arrête de se poser la question à savoir si on le renvoie à l'école ou on le renvoie pas à l'école. Je pense que les gens regardent ça d'un côté ou de l'autre, dépendamment de leur la lorgnette par laquelle ils regardent. Il y en a qui n'attendent que ça et qui me disent, mais là, le vaccin est approuvé pour les 12 ans et plus, pourquoi je peux pas juste le donner à mon 11 ans? Et de l'autre côté, il y en a qui disent, mais là, ils sont pas si malades que ça, pourquoi est-ce que je les vaccinerais? Donc, je pense que d'offrir le vaccin, ça va déjà rassurer certaines personnes. Pour les autres, ça permet quand même une vie en société qui est un peu plus facile. Ceci dit, une fois le vaccin autorisé, je sais même pas comment est-ce que la recommandation va sortir du point de vue des organismes aviseurs, là, que ce soit le comité fédéral, CCNI ou le comité sur l'immunisation du Québec. C'est possible qu'on dise on vaccine tout le monde ou qu'on dise on vaccine ceux avec des conditions à risque. Je sais pas exactement comment est-ce que ça va sortir parce qu'on n'a pas encore vu toutes les données là, des études qui ont été déposées.
Je laisse de côté les vaccins, puis quelques questions sur le masque en classe. Il y a beaucoup de parents que... Et des fois, j'ai l'impression que c'est plus le parent qui est inquiet que l'enfant, là, qui considère là, que c'est trop demandé à un enfant de porter ça en classe, puis de porter ça dans les aires communes, que bref, ça aide pas à la respiration d'un enfant. Qu'est-ce que vous dites là-dessus?
Ben, dans les études qui ont été faites, il n'y avait pas d'impact sur l'oxygénation ou le taux de CO2 là, dans le sang des gens qui portaient un masque. Les enfants le portent sans problème. C'est sûr qu'on préférait ne pas en avoir, mais c'est toujours c'est la balance des risques et des bénéfices. Donc, si avec un masque, on est capable d'aller à l'école en présence puis qu'on n'est pas obligé de tout fermer la classe à chaque fois qu'il y a un cas, je pense que ça vaut la peine. J'ai l'impression que nos enfants préfèrent être capables d'aller à l'école et d'avoir accès à leurs activités plutôt que de se faire dire « bon ben va à l'école sans masque, mais ça se peut que dans une semaine, on te retire pour deux semaines ». Je sais que le groupe de pédiatres de Québec avait fait une étude dans leur secteur, puis c'est ce qui était ressorti de leur questionnaire auprès des ados. Eux disaient, écoutez, nous, porter un masque toute la journée, à la limite, là, ça nous dérange moins que de se faire toujours restreindre dans nos activités, puis de nous faire envoyer à la maison une journée sur deux, par exemple, en virtuel, ou deux semaines à toutes les trois semaines parce qu'il y a un cas, puis qu'on est en contact.
Docteur Couache, merci beaucoup d'avoir pris ce temps-là pour nous ce matin. Bonne journée.
Merci.
Au revoir. Docteur Caroline Couache, qui est microbiologiste, infectiologue à l'hôpital Sainte-Justine.
L'essentiel de Paul Arcand.
Les services de renseignement britanniques américains savaient qu'une menace planait sur l'aéroport de Kaboul. Et on vous donnera plus de détails tantôt. Hier, deux explosions, donc attentats suicides. Le bilan varie énormément. 60, 90, 100 morts du côté afghan, 13 soldats américains. Fabrice de Pierrebourg est avec nous. Avant de revenir sur les attentats puis le fait que c'est l'État islamique qui a revendiqué, Fabrice, tu as pu apprendre dans les dernières heures là, qu'il y a au moins une quinzaine d'employés afghans de l'ambassade canadienne qui seraient laissés seuls à leur sort à Kaboul.
Oui, c'est une histoire vraiment incroyable, Paul. On savait déjà qu'il y avait des traducteurs, hein, puis je vous ai souvent parlé du cas d'un traducteur que je connais, qui travaillait pour les forces armées canadiennes et qui était sans nouvelles du Canada, qui était vraiment désespéré. Ben là, cette nuit, j'ai appris, grâce à un collègue franco-afghan avec qui j'ai travaillé quand j'étais à Kaboul cet été, qu'il y a une quinzaine d'employés de l'ambassade, donc vraiment des employés du Canada, qui sont là-bas depuis environ 2015-2016. Alors de quoi parle-t-on? Ben, de chauffeurs, de cuisiniers, d'électriciens. J'ai obtenu, Paul, les copies des badges d'accès de plusieurs d'entre eux qui sont valables jusqu'en 2023. J'ai aussi des attestations d'emploi qui ont été rédigées ce printemps. Et tous vont, c'est assez déchirant, tous les jours à l'aéroport en espérant pouvoir être évacués. Depuis le début, Paul, des évacuations, c'est-à-dire à la mi-août, quand les talibans sont rentrés à Kaboul, ils cherchent désespérément à joindre quelqu'un à Ottawa, ils ont appelé tout le monde à l'ambassade. Ils n'ont eu, disent-ils, aucun retour du Canada. Et ils sont évidemment désespérés. Et il faut savoir qu'hier, En entrevue avec Patrice Roy, Marc Garneau, donc le ministre des Affaires étrangères, a reconnu que l'ambassadeur et tous les employés de l'ambassade avaient filé de Kaboul, étaient partis dès le 16 août. Et lui avait dit, c'était l'ambassadeur qui avait jugé bon, que c'était plus sécuritaire de quitter, alors qu'on sait que beaucoup de pays étrangers ont laissé en place au moins une cellule de crise. Certains pays comme la Grande-Bretagne, les États-Unis, la France ont ouvert une sorte d'ambassade annexe à l'aéroport avec des gens qui étaient là pour essayer d'évacuer le plus de monde possible. Alors je dois dire que cette histoire me trouble et va troubler énormément de gens. Évidemment, je cherche à avoir les commentaires du bureau de Marc Garneau depuis une heure ou deux et c'est le silence total. Mais disons que c'est quelque chose qui va devenir vraiment embarrassant pour le gouvernement. Quoi.
Ça veut dire, Fabrice, que là-bas, on a quoi, rapatrié à peu près quoi 3500 personnes environ, là, puis qu'il y aurait 20 000 Afghans en situation difficile. Mm-hmm. Ça veut dire qu'il y a des ressortissants canadiens là-bas qui sont encore sur place. Il y a des Afghans canadiens, puis il y a des Afghans qui ont aidé les forces de la coalition.
Tout à fait. Puis dans le chiffre d'environ 3500, personne ne sait exactement la ventilation parce que on sait aussi que les forces qui sont là-bas évacuent aussi des ressortissants d'autres pays ou des gens qui s'en vont dans d'autres pays. Donc dans les 3700, c'est pas forcément des gens qui vont au Canada. Et dans le lot de ceux qui vont au Canada, il y a aussi des citoyens et des résidents permanents. Donc la fraction d'Afghans qui ont travaillé pour le Canada, qui se sentent menacés ou qui feraient un métier, tous les gens que le gouvernement Trudeau disait qu'on allait accueillir, là, les journalistes, les défenseurs des droits humains, les défenseurs des droits des femmes, etc., on ne sait pas c'est quoi le pourcentage. Puis il va de soi que à partir d'aujourd'hui, là on sait que bon, le Canada a arrêté hier ses vols de rapatriement, je pense que la France c'est demain, il y en a beaucoup. Parce que le 31, c'est déjà dit, le mardi, c'est la date finale. Il n'y aura plus personne là. Donc, c'est sûr que la situation de ces gens-là va devenir catastrophique. Puis, ce sont des employés actuels d'un gouvernement étranger. Donc, on ne sait pas ce qui va leur arriver. Puis, je comprends leur désarroi. L'un d'eux est allé hier à l'aéroport. Il a quitté quelques heures avant le double attentat là, qui a eu lieu en fin de journée heure locale. Mais ces gens-là, évidemment, se sentent vraiment abandonnés. Puis, que leur dire? C'est pas évident, c'est comme mon traducteur qui m'écrit tous les jours en me disant aidez-moi, avez-vous du nouveau? Ben, j'ose pas lui dire que finalement on pourra rien faire pour lui, quoi.
Bon, revenons sur les deux attentats. On le disait, des dizaines de morts du côté afghan, 13 soldats américains. Jean-Philippe David va être avec nous dans quelques moments. D'abord, ce qu'on comprend, Fabrice, c'est que la menace planait. C'était un peu logique dans la mesure où les talibans prennent le contrôle et que les forces étrangères se trouvent concentrées à l'aéroport de Kaboul.
C'est sûr que, et puis il y avait, comme tu l'as dit en introduction, il y avait des menaces très spécifiques. Hein. Dès la veille, les services de renseignement occidentaux puis le département d'État américain avaient dit, écoutez, quittez les alentours de l'aéroport, il y a une menace extrême d'attentat, et finalement ça a eu lieu quelques heures plus tard. Cet attentat a été revendiqué par le groupe armé État islamique, c'est sûr que ça portait sa signature. Ils ont attendu le bon moment pour le faire. Il faut dire que toute cette foule, ces milliers de personnes, hommes, femmes, enfants, qui sont massés devant les portes, les différentes portes de l'aéroport, avec des soldats de la coalition, des soldats afghans, des talibans, etc. et tout, c'était une cible de choix pour eux. Et ils ont fait ça, comme d'habitude, avec un double attentat, un premier devant les portes, puis un deuxième, je dirais moins d'une heure plus tard, à proximité, parce que c'est un lieu où on donne souvent rendez-vous, les étrangers, enfin les représentations étrangères donnent souvent rendez-vous à leurs ressortissants à cette porte-là, qui n'est pas vraiment la porte principale de l'aéroport, mais qui est un peu à l'est. Donc c'est sûr que, et dans leurs revendications, ils disent qu'ils ont fait exprès de s'approcher le plus près possible des soldats américains, des soldats afghans et des traducteurs pour évidemment en tuer un maximum en plus des civils, puisqu'il y a à peu près 13 soldats américains qui ont été tués, puis on pense que le bilan va monter. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que ça montre que le groupe armé État islamique et les talibans, ce sont des ennemis, mais ça date pas d'aujourd'hui, quoi. Ça fait au moins 3-4 ans que le groupe armé État islamique, qui a une branche très active en Afghanistan, à l'est de Kaboul, s'attaque à la fois aux soldats étrangers, mais surtout aux soldats afghans et aux talibans. C'est leur ennemi. Ils les considèrent comme des traîtres. Depuis qu'ils ont signé un accord avec les Américains au Qatar, donc qui a mené à l'évacuation des troupes étrangères, l'État islamique considère que les talibans finalement ont dévoyé la cause du djihad et que c'est pas une vraie victoire qu'ils ont emportée mi-août, mais qu'au contraire, c'est l'Occident qui leur a facilité la tâche, quoi.
Fabrice, merci beaucoup. Et on suit ça, évidemment, tout au cours de la fin de semaine. Fabrice de Pierrebourg. Maintenant, Charles-Philippe est avec nous. Le président Biden a commenté en fin d'après-midi hier les phrases habituelles avec la promesse, évidemment, de répondre au moment et avec la force choisie par les Américains. Charles-Philippe, bonjour.
Bonjour, Paul.
Alors, donc, le président Biden disait il faut sortir d'Afghanistan pour éviter que des soldats américains meurent. Il se retrouve avec 13 morts du côté des soldats américains. D'abord, tes premiers commentaires là sur l'événement et l'impact là, sur le président.
Bien, Paul, et comme Fabrice l'a tellement bien expliqué, ben aucune surprise, ce n'était pas de savoir si un attentat allait se dérouler, c'était de savoir quand et comment il allait se dérouler. Et on a eu notre réponse hier, deux fois d'ailleurs, et avec des morts, ce qui change complètement la donne pour Joe Biden. Les morts, cette fois, ce sont les soldats américains, entre autres. Il a perdu, écoutez, il a perdu l'équivalent de la moitié des soldats qu'il a perdu en deux ans en Afghanistan, pour l'instant. 12 ou 13 sur les 24 des deux dernières années. Donc, ça frappe fort. Et pour Joe Biden, sa réaction hier était à la fois une réaction évidemment très émue. On a bien vu qu'il était franchement déstabilisé par ces événements-là. D'autant qu'il a perdu son fils en Afghanistan, l'un de ses fils. Et donc ça, c'est quelque chose qui l'a touché personnellement. Donc c'était un témoignage vraiment émouvant. Mais en même temps, il a aussi eu cette phrase retenue par les médias qui m'a ramené 20 ans en arrière, Paul. Les déclarations de George W. Bush à la veille d'attaquer l'Afghanistan lorsqu'il a promis une vengeance. Et donc c'est très clair que pour Joe Biden, il n'en a pas fini avec l'Afghanistan. C'est terrible, vous savez, parce que la stratégie de sortie de Joe Biden de l'Afghanistan finit par lui coûter plus cher que s'il était resté avec un minimum de soldats, soit 2500, et le voilà obligé de renvoyer des soldats les uns après les autres pour protéger l'aéroport et bien sûr garantir le retrait des Américains et des Afghans qu'on permet évidemment de quitter le pays. Alors c'est terrible parce que là c'est sûr que ça va lui coûter politiquement aussi. Il avait promis que la raison pour laquelle il se retirait de l'Afghanistan, c'était que la lutte au terrorisme était terminée. Et voilà justement que le terrorisme frappe. Admettez, hein, le message ne va pas très bien passer. Et espérons qu'il n'y aura pas d'autres attentats et qu'il n'y aura pas d'autres événements parce que là, on parlerait d'un dérapage complet de la décision et de sa politique face à l'Afghanistan.
Quelle sorte
Alors,
de...
c'est terrible.
Ouais, quelle sorte de réplique les Américains peuvent concocter? Quelles sont les options, tu penses?
Oui, ça, c'est intéressant aussi. Il faut de l'information, normalement, sur le terrain, Paul, pour pouvoir trouver déjà, débusquer les gens que vous voulez arrêter ou que vous voulez tuer. Et ce renseignement n'est pas disponible, je ne crois pas, à moins qu'il y ait des opérations spéciales américaines qui soient déployées à l'extérieur de l'aéroport de Kaboul. Alors voici un autre paradoxe, Paul, intéressant. Il est probable que le gouvernement américain, en secret, demande l'aide du gouvernement, du nouveau gouvernement des talibans, pour pouvoir trouver ces gens-là, qui sont apparemment connus, hein, et qui vivent à Kaboul, ce qui en rajoute une couche, pour les trouver et sans doute, soit utiliser des drones armés ou utiliser des chasseurs ou des opérations spéciales. Alors, on est rendu au point où il est possible que le gouvernement taliban, et là, ça dépend de leur réaction à eux, hein, il ferait un grand coup diplomatique en dénonçant, bien sûr, ces attentats et en disant qu'ils sont prêts à collaborer avec le gouvernement américain. Et là, tout le monde va dire, c'est pas croyable. Mais c'est pas croyable en géopolitique, c'est pas la première fois qu'on entend ça. Alors, on va voir la suite des choses, mais c'est loin, loin, loin d'être fini.
Charles-Philippe, merci. Bonne journée.
Je vous en prie.
Au revoir. Charles-Philippe David, qui est le fondateur de la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques et président de l'Observatoire sur les États-Unis à l'UQAM.
L'essentiel de Paul Arcan.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcan.
Très bien, fallait s'y attendre. Il y a des gens qui sont allés tester, pour ne pas dire pirater directement, le site pour obtenir le passeport vaccinal, donc d'avoir des informations. Et ils ont ciblé des gens connus, c'est-à-dire le premier ministre Legault, Christian Dubé, le ministre Éric Kerr, à qui on va parler tantôt, Dominique Anglade. Vous trouvez ça dans la presse, dans le Journal de Montréal ce matin. Alors, donc, ils ont téléchargé les codes QR. La question, comment est-ce qu'ils ont pu faire ça, puis comment est-ce que le système a pas pu empêcher une telle opération? Steve Waterhouse est avec nous. Steve, en gros, là, qu'est-ce que le pirate a fait?
Bonjour, Paul. Bonjour. Le pirate, la communauté qui se sont adonnés à regarder et observer la plateforme, comment qu'elle fonctionne, c'est le processus de récupération du code QR. Lorsqu'on s'en est fait donner un à la vaccination, on le perd, on veut en avoir un autre. La page demande des informations très simples, le nom, le prénom, la date de naissance et le numéro de la carte RAMQ. Et donc, pour des personnalités publiques, c'est quand même de l'information facile d'accès. Et il reste simplement les deux numéros au bout du numéro de RAMQ à générer. Et avec un générateur aléatoire, ben à ce moment-là, ils ont été capables de deviner le numéro de la carte RAMQ et à ce moment-là, avoir le téléchargement d'un code QR légitime et signé par le gouvernement.
Est-ce que je comprends qu'il n'y avait pas de limite aux essais qu'on pouvait faire pour percer le système?
C'est exactement ça. Donc, le développeur, lui, il a livré ce que le gouvernement voulait, mais ils n'ont pas de spécialistes en cybersécurité dans leur équipe de développement, et ça a été quelque chose qui a été fait à la va-vite, faut le dire. Et de cette manière-là, on retrouve une plateforme qui donne facilement des codes QR, et quelqu'un qui a un nom similaire, ben à ce moment-là, c'est plus facile de donner juste un changement de date de naissance sur une fausse carte d'identité avec un code QR complètement légitime, puis qui pourrait à ce moment-là contourner le système.
OK, mais juste pour que je comprenne, le code QR, mettons, je vais chercher le code QR de François Legault, là.
Oui.
Je vais me créer un passeport vaccinal au nom de François Legault ou je peux mettre n'importe quel nom?
Non, c'est le vrai. Ça, c'est le vrai code QR, le vrai passeport vaccinal de chacune des personnalités qui a été énumérée.
Et, mais on fait quoi avec ça?
Ben, c'est encore une fois, ça, c'est la partie humoristique d'avoir le code QR de n'importe qui. Mais après ça, un non-vacciné peut prendre avec un même nom ou il va se créer une fausse carte d'identité pour prouver, parce que à la présentation du passeport vaccinal, il faut prouver son identité. Et à ce moment-là, il va pouvoir dire, ben regardez, je suis telle personne. Mais sans quoi, ça ne sert pas plus à grand-chose.
OK, mais ça veut dire que, par exemple, là, si je mets les noms connus ou les personnalités de côté, ça veut dire que, je sais pas, moi, je te connais, j'ai ton nom, j'ai ta date de naissance, puis je peux aller me chercher ton code. Puis je me crée une fausse carte Steve Waterhouse, puis je sais pas, moi je vais au restaurant.
Exactement. C'est l'objectif, en tout cas, c'est une des possibilités que quelqu'un peut faire quoi que ce soit avec ses codes récupérés.
Parce qu'il n'y a pas d'informations sensibles de récupérer.
Non, à part quand même, si quelqu'un veut demeurer privé, parce que c'est sa vie privée quand même, de ne pas laisser savoir aux gens qu'il a été vacciné, les lieux qui a été visité pour la vaccination et surtout la date de naissance qu'elle ne soit pas connue, ben c'est là que ça expose pour rien l'information citoyenne comme ça. Une personnalité publique, c'est diffusé sur toutes sortes de plateformes. Mais le citoyen typique, lui, là, il veut peut-être garder ça privé, mais dans ce cas ici, la plateforme ne le permet pas.
Il me semble, là, tu me corrigeras, ça fait un bout de temps que tu alertes les gens sur les faiblesses du code QR et, disons, sur les systèmes de cybersécurité quand on élabore des plateformes comme ça.
Oui, c'est une réalité. Et ce qui est triste là-dedans, ben c'est une culture à l'intérieur du gouvernement, spécifiquement au ministère de la Santé, qui travaille en isolation et qu'il y a très peu de feedback. Les gens qui ont découvert ça, ils l'ont laissé savoir au gouvernement rapidement pour qu'il y ait justement un correctif qui soit apporté. Mais le feedback, à l'inverse, il arrive jamais. Et donc, on se retrouve devant des conditions comme ça. Dans le contrat avec le développeur Equinox, ben il n'y avait pas de paragraphe sur la cybersécurité là-dedans. Ça a été reconnu par le ministère. Et le ministère, lui, arrive là-dedans, il veut changer la culture de la sécurité informatique, autrement dit, la protection du renseignement personnel, mais c'est un changement de culture, et quand on dit culture, ça prend du temps à mettre ça en place. Fait qu'on se retrouve encore aujourd'hui qu'on parle de codes QR qui sont facilement accessibles, l'application de code vérif est possible à ce moment-là d'avoir une passe à côté, ça a été découvert aussi hier, un citoyen qui a trouvé une faille dans l'application vérif code, puis il est capable à ce moment-là de générer générer lui-même des codes QR, même pas en passant par le portail. Puis à ce moment-là, l'application permet de dire que c'est un code QR légitime alors qu'il n'y a même pas de signature du gouvernement.
Le ministre Éric Kerr est avec nous. Merci beaucoup, Steve. Bonne journée.
Ça fait plaisir, bonne journée.
Steve Waterhouse. Monsieur Kerr, bonjour.
Bonjour, cher Kahn.
Alors, le système n'est pas blindé à 100%?
Non, clairement.
OK. À quel moment vous l'avez réalisé que le système n'était pas blindé? Parce qu'en point de presse, vous avez dit « tout est parfait ».
Non, j'ai dit que c'était sécuritaire. Puis ça, là-dessus, je maintiens puis je vais m'expliquer. Là, parce que j'écoutais M. Waterhouse, puis bon, je suis d'accord avec lui, là, mais il y a quand même une contextualisation. Donc, la faille, effectivement, qui a été découverte, fait référence à une, ben là, je veux pas rentrer dans les termes techniques, là, mais fait référence à une librairie là, qui permet effectivement de passer un code QR et de le faire passer pour valide. Ceci étant dit, je veux quand même dire qu'il y a plusieurs tentatives de faux codes QR qui ont échoué. Donc, ce que cette personne-là a trouvé, c'est une façon très précise de forger un code QR qui, lui, réussit à déjouer le code VÉRIF. Cette modification-là a été apportée. Là, c'est un correctif qui est très simple à faire. Ça a été fait. Et donc, pour le 1er septembre, cette faille-là sera corrigée.
OK. Jusqu'à temps qu'on en trouve une autre, puis peut-être une autre, puis peut-être une autre, puis que quelqu'un qui est un peu talentueux puis qui connaît ça soit capable de percer votre système.
Ben oui. Mais je vous dirais, M. Arcan, là-dessus, vous savez, je vais juste prendre le téléphone avec lequel je vous parle. Apple envoie des correctifs de sécurité régulièrement sur les systèmes d'exploitation parce qu'on découvre des failles, des portes dérobées. Mais ce que je veux peut-être expliquer, c'est que c'est pas nécessairement des trucs, c'est pas des portes de grange. C'est effectivement des choses qui deviennent très pointues. Elles existent, puis je veux pas, comprenez-moi bien, là, je veux pas me défiler, là. Elles existent, mais c'est des choses qui sont extrêmement pointues et qui souvent peuvent prendre même du temps à découvrir par les hackers eux-mêmes, parce que c'est pas des portes de grange qui sont ouvertes, là.
Ben, attendez, on va prendre l'autre exemple, c'est-à-dire là ce qui est publié ce matin, la presse, Journal de Montréal, là. À partir du nom, donc les gens connus, vous êtes sur la liste,
oui.
Trouvez votre date de naissance, pas trop dur, puis trouvez votre numéro d'assurance maladie, il manque deux chiffres avec un chiffrier, c'est facile. Puis là, je suis capable d'aller me chercher une preuve vaccinale à votre nom.
Parce que j'ai rendu public la date de mon premier vaccin et le type du premier vaccin que j'ai reçu. Ça, c'est des. Puis vous remarquerez que tous ceux qui sont sur la liste de ce matin ont ceci en commun, qu'on a eu la bonne idée de se prendre en photo en disant aujourd'hui, j'ai reçu telle date, tel type de vaccin. Donc, cette information-là, nous l'avons volontairement rendue publique. Maintenant, je suis d'accord que c'est simple d'obtenir un code QR, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est quand même très limité ce que vous pouvez faire avec ça.
Ça, c'est vrai.
Maître mot là-dedans, si vous me permettez, oui. M. Arcan, le maître mot là-dedans, c'est de vous identifier. Donc, si moi, demain matin, il me prend l'envie d'aller chercher un code QR au nom de Paul Arcan, ça se peut que ce soit facile, mais ça se peut que ce soit un peu plus compliqué de prouver que je suis Paul Arcan.
Ça, c'est vrai. Mais quand vous me parlez de porte de grange, je vais vous donner un exemple. Là, si c'est pas ça, dites-moi le.
Oui.
J'ai un chiffrier, il manque deux chiffres pour avoir votre numéro de carte d'assurance maladie. Est-ce que c'est vrai que le système actuel fait en sorte que je peux essayer à l'infini?
Oui, c'est vrai.
C'est pas une porte de grange, ça?
Écoutez, l'idée, c'est que on souhaitait avoir quelque chose de très simple. Pourquoi? Parce que on a des expériences désagréables au gouvernement où, effectivement, pour accéder à des services numériques, on a utilisé des moyens très sécures, mais on envoie aux gens des codes complètement ésotériques avec des codes usagers qui retiennent pas, ce qui fait que ça les décourage puis ils n'utilisent pas le système. On voulait aussi permettre à quelqu'un d'aller chercher le code QR pour ses parents, pour ses enfants, pour quelqu'un qui a peut-être pas le moyen technologique de le faire. Donc, dans cette simplicité-là, il y a des failles, je vous le concède, mais il y a aussi des avantages. Il faut faire la balance des inconvénients ce matin. Est-ce que effectivement, on peut pas limiter le nombre de tentatives? Ce faisant, on limite à combien? Parce que il arrive quoi si vous perdez votre code QR? À combien de droits, à combien de pertes de code QR avez-vous droit pour... Alors, comprenez-vous, c'est tout ça qu'il faudra mesurer. Est-ce que c'est trop simple? On va l'évaluer. Mais parallèlement à ça, je vous dirais que je regarde le succès qu'on a eu jeudi sur le téléchargement. Ben, la simplicité y fait pour beaucoup aussi. Donc, il faut juste trouver l'équilibre entre ne pas polluer la vie des gens à qui on impose quand même un passeport vaccinal, là. Alors, en plus, si on leur rend ça, le parcours du combattant pour l'obtenir...
Non, mais entre ben, le oui, parcours du combattant, je comprends.
Ben, c'est ça. Il faut trouver l'équilibre. Je vous concède qu'il faut trouver l'équilibre. Okay. On travaille là-dessus. Et je peux, si vous me permettez, M. Arcand, je veux aussi préciser, là, parce qu'il y a des conséquences à ce qui a été fait. On l'a dit, quelqu'un qui veut de façon illégitime se procurer un document, il y a des conséquences. Donc, l'individu qui a fait ça fait l'objet ce matin de 4 plaintes, dont une à la Sûreté du Québec, au contentieux du procureur général, à la Commission d'accès à l'information et à la RAMQ. Donc là, il faut aussi que les gens soient informés que si vous vous amusez, permettez-moi l'expression, à ce genre de pratique-là, ben il y aura potentiellement des conséquences. C'est ce matin, l'individu qui a fait ça fait face à 4 plaintes.
OK, donc il y a une enquête officielle ouverte.
Voilà.
OK. Question plus technique. Beaucoup d'usagers qui ont la plateforme Android se demandent à quel moment ils auront accès à leur passeport.
Oui. Ben, dans le cas d'Android, c'est un peu plus long, mais il faut comprendre que on a des accréditations avec Apple qui n'existent pas chez Android. Donc, c'est peut-être un peu plus complexe là, d'adhérer ou d'être téléchargé sur la plateforme Android. Mais ce qu'on me dit, c'est que c'est une question de jour. Et avant le 1er septembre, il n'y aura pas de problème pour obtenir VaxiCode et VaxiCode Vérif là, pour les utilisateurs d'Android. Là, ça va être prêt à temps.
OK, parfait. Merci, M. Kerr.
Merci, M. Kerr.
Au revoir. Éric, vous aussi. Et le ministre responsable de l'informatique puis de la protection des renseignements personnels. C'est vrai que dans le fond, il y a peu de choses que tu peux faire avec le code QR de François Legault. Tu sais, je veux dire, tu peux... Mettons que pour ton employeur, tu dis bonjour, t'es soudainement devenu François Legault ou Éric Kerr, c'est sûr que ça passe pas comme tel. Mais pour des gens qui veulent se créer avec un nom moins connu, une fausse identité pour pouvoir comme ça aller au restaurant ou au gym, et, ou bon, est-ce que ça peut... Mais ça montre quand même les faiblesses d'un système.
L'essentiel de Paul Arcand.
Bon, on est en principe dans le dernier droit concernant la situation à l'usine Dolimel de Vallée-Jonction. Le syndicat hier a refusé l'offre d'arbitrage. Théoriquement, il faut trouver une entente d'ici dimanche, sans quoi ben on va faire 500 mises à pied. Et ça pose évidemment des... En fait, ça cause des maux de tête, je devrais dire, aux éleveurs de porc du Québec. Après le poulet, c'est le porc, ça s'étire, ça avance pas. Et chacun semble assez braqué sur ses positions. J'en parle avec le président des éleveurs de porc du Québec, David Duval. Monsieur Duval, bonjour.
Oui, bonjour, Monsieur Arcand.
Bon, avez-vous des échos de ce qui se passe dans les négos entre Olimel et son syndicat?
Je sais qu'on fondait beaucoup d'espoir par rapport à l'entente de principe qu'il y avait, parce qu'on voyait qu'il y avait eu un rapprochement depuis le début. C'était très éloigné, ça s'était rapproché jusqu'à avoir une entente de principe. Là, on voit qu'il reste quelques cents. On entendait 20 cents de différence de l'heure pour la première année. Des choses qui, selon moi, auraient pu amener à une entente, mais je vois que les deux camps campent sur leur position et on se croirait dans le jour de la marmotte. Ça revient toujours à la case départ. À chaque fois, on pense qu'il va y avoir un dénouement heureux et ça revient à la base. Mais je vous dirais que je peux pas croire que le syndicat prennent ça comme une simple menace. Là, la fermeture de l'UMEL, c'est la réalité. Là, si l'UMEL ne s'entend pas, et je les connais très bien là, pour avoir négocié avec eux autres, là, c'est clair qu'il va y avoir abolition du chiffre s'il n'y a pas une entente d'ici dimanche, c'est clair.
OK, M. Duval, actuellement, ce conflit de travail pour les producteurs de porc du Québec, là, qu'est-ce que ça donne sur le terrain? Comment ça se traduit concrètement pour vous autres?
Ben, c'est sûr que c'est mêlé entre de la colère et du désespoir parce que chaque producteur a son entreprise propre et évolue de sa façon avec ses animaux, mais c'est des animaux qui sont parfois entassés, parfois avec les périodes qu'on a eues là, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup plus de querelles entre les animaux parce que quand ils sont un peu plus entassés, ben ils sont moins patients, ils deviennent un peu plus agressifs et là on essaye de sortir ceux qui sont des fois un peu amochés ou ceux qui sont trop agressifs mais c'est quand on n'a pas de place, on n'a plus de place là pour les mettre, on n'a pas de beaucoup d'alternatives là on est vraiment dans la dans un dernier droit, nous autres aussi, à dire y a rien d'autre là, que d'essayer de les sortir le plus rapidement possible. On a eu la chance cet été d'avoir des ententes avec les États-Unis ou le reste du Canada pour vendre des parts, mais je le répète, l'automne, c'est une période beaucoup plus difficile. On a déjà des contrats qui ont été cancellés ou qui vont terminer pour le mois de septembre. Alors ça va devenir encore plus difficile pour les producteurs.
Et vous êtes certain que l'IMEL peut se permettre de faire disparaître 500 emplois?
Oui. J'en suis convaincu parce que c'est quand même une très grande entreprise pan-canadienne. L'impact d'une négociation sur un abattoir a de l'impact sur les autres abattoirs. Alors, pour eux autres, là, et les autres abattoirs et toutes les autres usines de transformation qu'ils ont, là, alors ils peuvent pas se permettre de donner quelque chose qui mettrait en risque, un risque sur leur entreprise, là, et la compétitivité qu'ils ont à travers la planète, là, parce que on est une entreprise, Olimel est une entreprise qui vend partout sur la planète, aux États-Unis, en Chine, au Japon, et elle peut pas se permettre de ne plus être compétitrice. Ça mettrait en danger la filière porcine au complet.
Est-ce que vous pensez que, par exemple, Olimel pourrait décider de fermer Vallée-Jonction puis aller ailleurs?
C'est un risque. On le calcule, nous autres. On le calcule on a plein de suppositions. On a des discussions avec Olimel. C'est sûr qu'ils nous disent pas les différents plans qu'ils ont. Mais dans l'éventualité qu'il n'y aurait pas d'entente, c'est sûr que ça peut être une possibilité.
Mais ça veut dire que vous, comme producteur de porc, là, vous êtes dépendant d'Olimel?
Ben, au Québec, oui, on est dépendant d'Olimel. La seule chose que j'ose dire, et que je le dis sans avoir consulté mon exécutif, là, mais on importe 1,5 million de cochons de l'Ontario pour fournir les abattoirs d'Olimel au Québec. Au Québec, là, on est capable de fournir les abattoirs du Québec, nous autres, les producteurs de porc, mais on est obligé, pour avoir un coût de production et faire tourner toutes les usines, d'importer des porcs. Alors, c'est sûr qu'à partir du moment qu'il y a une fermeture, c'est clair qu'il va avoir aussi des conséquences envers le commerce interprovincial avec l'Ontario. Là. C'est un autre enjeu que ce qui va nous tomber sur la tête et qui va tomber sur la tête du gouvernement, parce que j'en ai déjà parlé avec le gouvernement. Et ça, là-dessus, là, quand on commence à parler de commerce interprovincial, là, ça les chatouille énormément.
Parfait. Merci beaucoup, M. Duval.
Merci.
Au revoir. David Duval est le président des éleveurs de porc du Québec.
L'essentiel de Paul Arcand.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.